L'Élysée dans la tourmente, anatomie d'un exécutif en crise.
Alors que la France traverse un blocage institutionnel sans précédent, retour sur ces moments de la Ve République où le sommet de l'État a vacillé, douté et menacé d'exploser. Quelle leçon pour aujourd'hui ?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Jean Garrigue.
Épisode 2. 1969, la République orpheline du général.
Le vieux cri de la Troisième République dans les périodes de houle est maintenant regardé vers vos circonscriptions et plus que jamais d'actualité, car la menace d'une dissolution de l'Assemblée va hanter les députés de la majorité qui feront naturellement tout pour que leur candidat gagne la course à l'Élysée. Pierre Viançon-Ponté, Le Monde, le 29 avril 1969. Franchement, cette citation, elle pourrait être aujourd'hui, non ?
Oui, c'est vrai.
On va revenir sur le contexte, mais
c'est
franchement...
Vrai que on se demande justement ce que une nouvelle dissolution aujourd'hui pourrait apporter quand on voit les désordres que la soi-disant clarification de la première nous a coûté.
Alors on est là en 1969, le grand journaliste du Monde, Pierre Viançon-Ponté, évoque la menace d'une dissolution de l'Assemblée. C'est vraiment très très actuel, hein. Ça va hanter les députés de la majorité qui feront tout aussi pour que leur candidat gagne la course à l'Élysée. Bref, on est déjà malade du présidentialisme comme aujourd'hui en 1969. Le contexte, on va y revenir à ça, mais oui. Le contexte, c'est le départ, la démission du général de Gaulle.
Oui, parce que cette démission a quand même surpris tout le monde.
Oui.
Elle était dans la logique, et ça il faut le reconnaître, dans la logique de ce que le général de Gaulle considérait comme le contrat de confiance entre un président de la République et son peuple et les citoyens. Il va jusqu'au bout de cette logique de l'appel au peuple, qui est une logique très bonapartiste, hein, il ne faut pas se le cacher, mais qui est véritablement dans la cohérence du général de Gaulle. On sait bien que le prétexte de ce référendum n'a pas été compris, que les gens se disaient « est-ce qu'il faut voter pour ou contre la réforme du Sénat, la décentralisation ?» Ça les dépassait totalement. Ils avaient bien compris que c'était un plébiscite, en fait, pour le général de Gaulle.
Oui, parce qu'il l'avait dit. Il l'avait dit, si le nom l'emporte, je démissionne.
Je démissionne. Il était issu d'un plébiscite, le général de Gaulle, en réalité, en 1958, sur les institutions. Eh bien, là, il part sur un plébiscite négatif. Il se met en cohérence, véritablement, avec les institutions de la Ve République.
Et il laisse un trou immense, un vide immense. C'est le président du Sénat qui, à l'intérim, Alain Poher, à ce moment-là.
Ouais.
Dans l'extrait que j'ai lu, on sent qu'il y a déjà la course des petits chevaux. Qui, pour remplacer le général de Gaulle ? Racontez-moi, c'est quelques mois après la démission du général de Gaulle. Lui, il partira en Irlande, quittera vraiment le pouvoir. Cette latence-là, qu'est-ce qu'elle dit aussi ? Est-ce que l'Élysée n'est, pour le coup, pas dans la tourmente ? L'Élysée est un nid vide.
Oui, c'est ça. C'est une sorte de trou noir de la vie publique. Parce que, et là, en revanche, on peut être beaucoup plus critique vis-à-vis du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle, au fond, ne supporte pas l'idée qu'on lui succède. En tout cas, il ne souhaitait pas si tôt qu'on puisse lui succéder, et qu'il y a eu ce divorce quand même très appuyé avec celui qui faisait figure de dauphin, son Premier ministre, Georges Pompidou, à l'été 1968. Il s'est débarrassé de Georges Pompidou, il faut le dire. Georges Pompidou, évidemment, lui en a beaucoup voulu. Georges Pompidou, en janvier 1969, interrogé par des journalistes à Rome, a pris position pour éventuellement succéder au général de Gaulle, ce que le général de Gaulle n'a pas supporté. Il faut dire que Pompidou en voulait beaucoup au général pour son attitude lors d'une ténébreuse affaire qui était l'affaire Markovic à l'automne 1968, général de Gaulle avait laissé tomber Georges Pompidou, pris dans la tourmente d'une affaire complètement fabriquée où des photomontages montraient son épouse dans des sortes de parties fines qui étaient évidemment totalement fantasmées et récupérées par un certain nombre de ses alliés politiques qui ne voulaient pas de Georges Pompidou au pouvoir, notamment à l'époque le garde des Sceaux René Capitan qui avait exploité cette affaire et même Maurice Couve de Muriville, qui avait succédé à Georges Pompidou à tête du gouvernement et qui, lui, n'avait rien fait pour véritablement calmer cette affaire. Bref, le contentieux entre l'ex-premier ministre, dauphin du général de Gaulle, dauphin présumé, et le président de la République faisait que Voilà, on était dans une forme d'incertitude. Les barons du gaullisme eux-mêmes ne savaient pas très bien sur quel pied danser. En réalité, la plupart d'entre eux estimaient que le meilleur, ce serait Georges Pompidou. Mais en même temps, ils voyaient bien que Georges Pompidou était en disgrâce. Donc, il y avait véritablement là un trou noir. Et c'est ce qui a amené à ces péripéties qui ont suivi la mort du général de Gaulle.
On va y revenir sur les péripéties, mais est-ce que c'est pas propre, et là on peut déborder le cas du général de Gaulle, et je crois que c'est Max Weber qui en avait parlé, ça, que le leader charismatique, il fait le vide autour de lui.
Oui,
ça c'est d'où la complexité de la succession.
Bien sûr, ça c'est un problème, et c'est un problème majeur de la vie publique en France notamment, pas simplement, parce que ça s'est posé dans d'autres pays, mais dans notre pays surprésidentialisé, dans notre pays où précisément cette mythologie de l'homme providentiel, du personnage charismatique...
Sur lequel vous avez écrit, d'ailleurs.
Et voilà, et si importante, c'est évident qu'à chaque fois, on se retrouve avec ce problème. Ce problème va se reposer très bientôt pour l'après-macronisme, parce que, par définition, le macronisme est un mouvement qui repose sur un homme, sur le charisme... présumé, en tout cas le charisme passé d'un homme, on va dire, qui aujourd'hui...
Comme le gaullisme l'a été à un moment donné.
Comme le gaullisme l'a été, mais ensuite, comme y compris, on y reviendra sans doute, Georges Pompidou lui-même, lorsqu'il devient président de la République, j'allais dire, écrase le jeu, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas qui véritablement pourrait lui succéder. Et parlons de François Mitterrand. François Mitterrand, à la fin de son règne, à la fin de ses deux septennats, n'envisage pas véritablement qu'un socialiste lui succède, d'où le devoir d'inventaire de Lionel Jospin, qui prend ses distances envers son mentor. Donc voilà, on est dans une sorte de mythologie très française, où c'est très compliqué de succéder au charisme du pouvoir personnel.
Mais il y a un peu une double maladie du présidentialisme là. Il y a le président qui ne veut pas préparer sa suite, et énormément, par conséquent, de prétendants.
Oui.
Donc là, on est dans une espèce d'entre-deux qui est catastrophique pour la vie politique à ce moment-là, en 69, peut-être aussi comme aujourd'hui.
Oui, je dirais que c'est pire aujourd'hui, au moins avec... La continuité des premiers ministres, et notamment de Georges Pompidou, quand même resté de 1962 à 1968, il avait eu le temps d'installer une image de présidentiable. Donc, évidemment, il y avait des rivaux, des concurrents, les gaullistes de gauche qui ne supportaient pas le côté très libéral de Georges Pompidou, mais disons qu'il s'imposait malgré tout, même des Michel Debré, même d'autres grands barons comme ça du gaullisme concédaient cet avantage à Georges Pompidou. En revanche, d'autres successions ont été plus problématiques, celle de Georges Pompidou notamment, alors,
on y reviendra
qui est parti
après,
brutalement, l'a été plus que jamais. Mais si on fait un comparatif avec aujourd'hui, alors là on voit bien à quel point l'espace d'une succession de ce qu'on appelle le macronisme ou du socle commun qui a soutenu les derniers gouvernements, cet espace-là est très encombré parce que, au fond, le président sortant n'a pas du tout préparé sa succession, n'a pas désigné de dauphin, et puis aussi parce qu'aucun de ces dauphins potentiels ne semble s'imposer par son charisme.
Mais est-ce que l'esprit de la cinquième, c'est que le président prépare un dauphin ?
Oui, l'esprit de la cinquième, tel que le général de Gaulle l'envisageait, c'était de préparer un dauphin. Alors, il a conçu l'élection présidentielle au suffrage universel comme un moyen de légitimer celui qui allait être président. C'est-à-dire que lui-même n'avait eu au départ comme légitimité que celle des 80 000 grands électeurs, ce qui était un handicap pour lui. Donc il se dit, je vais... donner une légitimité plus forte à ceux qui n'ont pas la mienne, c'est-à-dire la légitimité de l'histoire. Donc je vais leur donner le suffrage universel. Mais on s'aperçoit que ça n'est pas forcément suffisant et que si le président de la République lui-même ne donne pas une indication sur la manière dont on va lui succéder, là je parle dans le principe de la Ve République. Oui. Je ne dis pas que ça soit l'idéal, parce qu'on pourrait plutôt imaginer qu'on choisisse le meilleur, et éventuellement dans une majorité législative. Bref, cette désignation, ce signe qui doit être donné par le président de la République, ça fait partie de l'ADN de la Ve.
On a intitulé cet épisode « La République orpheline du général ». Est-ce que ça vous semble correct ? Est-ce que la République est orpheline à la fin des années 1960 ?
C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit partout. Moi, j'avais étudié ça dans mon livre sur l'histoire de l'incarnation.
Oui.
C'est ce que les Français envoient comme message à l'Élysée par des milliers et des milliers de lettres, de dessins, etc.
Ah oui.
On a perdu notre père, mais véritablement, le terme est employé, notre héros, etc. Il y a ce sentiment d'avoir une République qui n'a plus... D'abord, son père fondateur, son concepteur, son héros aussi, puisque c'est le héros de 1940... En réalité, les institutions sont prévues pour que ce vide soit rempli et que
elle fonctionne.
Y ait un successeur, et ça va fonctionner. Mmh. Ça va, au fond, très bien fonctionner en 1969.
Quand Horowitz avait évoqué les deux corps du roi, pour le coup, les deux corps du général de Gaulle vont disparaître coup sur coup, le corps politique en 69 et puis son corps biologique en 1970. Est-ce que sa mort un an plus tard va à nouveau réactiver cette souffrance et ce caractère orphelin de la République, sachant qu'il avait quand même disparu pendant un an.
C'est ça, mais c'est très frappant de voir qu'à nouveau se réactive ce phénomène de séparation, d'abandon. Tu nous as abandonnés, leur disent comme on pourrait, Seigneur, tu m'as abandonné. Ben, voilà, on a exactement quelque chose de christique, quelque chose de tout à fait, métaphysique dans cette perte du général de Gaulle qui se réactive en 1970, alors que en 1970, il y a quelqu'un
bien
qui
sûr.
Occupe la fonction présidentielle.
C'était, qui a été élu.
C'est très frappant. Mmh. Donc c'est une manière aussi d'évaluer un peu celui qui lui a succédé. Mais cependant, il faut dire qu'à ce moment-là, en 1970, Georges Pompidou garde une cote de confiance, de popularité, qui est sans commune mesure avec nos présidents du XXIe siècle. Ce qui veut dire, malgré tout, que la succession s'est pas si mal passée que ça, et que les gens ont compris que le fauteuil de l'Élysée était occupé, et occupé par un homme de qualité, qui sait répondre dans les conférences de presse avec beaucoup de talent, et dont on a l'impression qu'il tient quand même la barre, et qu'il a donc véritablement succédé au général de Gaulle.
Oui, parce que la République, c'est les élus, et puis c'est les électeurs. Est-ce qu'on peut dire que à ce moment-là, les Français découvrent peut-être plus qu'avant ce qu'est la Ve République.
Oui, oui, complètement. Évidemment, le fait d'être, abandonné par le héros, par le père fondateur, aurait pu effectivement susciter des critiques de plus en plus fortes sur les institutions, etc. Et c'est pas du tout ce qui se passe en réalité. On voit qu'il y a une sorte d'accoutumance. Et que Georges Pompidou, on peut lui savoir gré d'ailleurs de ce mérite, va précisément acculturer les Français à cette fonction présidentielle. Et d'ailleurs, il y tient beaucoup, puisque lorsque son Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, se risque en septembre 1969 à présenter son programme de nouvelle société, qui en fait est un programme présidentiel...
Oui.
Alors, il se fait taper sur les doigts, et pire, par Georges Pompidou, qui ne supporte pas précisément que, finalement, son Premier ministre usurpe des pouvoirs qui, finalement, ne sont pas d'origine, ne reposent pas sur les articles de la Constitution de 1958, que, finalement, le président s'est approprié.
Vous nous dites ici que, alors que la démission puis la mort du général de Gaulle aurait pu marquer la fin d'une dérive peut-être présidentialiste, en fait, pas du tout. Au contraire, le successeur, lui, doit absolument imposer, parce qu'il n'a pas la légitimité historique du général de Gaulle, cette présidentialisation du régime.
Complètement, complètement, mais il le fait.
Je veux dire que... Et il le fait bien.
Il le fait bien. Mmh. Et il le fait avec fermeté, d'où l'opposition, les tensions qui vont l'opposer pendant 3 ans avec Jacques Chaban-Delmas et qui vont conduire à la démission de Chaban-Delmas. C'est-à-dire qu'il y a un bras de fer entre le président de la République et le Premier ministre, et c'est le président de la République qui en est vainqueur.
Le président de la République, Georges Pompidou, qui meurt en plein exercice, voilà une première dans l'histoire de la Ve République. La République face à l'imprévu, ça sera l'objet de notre prochain épisode. L'Élysée dans la tourmente, anatomie d'un exécutif en crise, est un podcast original de France Inter.